Oui, merci pour votre exposé. Moi, j'ai un point que j'ai. Pardon, Elisabeth Gaillard, Colas. Il y a un point que j'ai pas entendu dans votre exposé. Je me demande, c'est pas là qu'il y aurait une clé. Quand vous parlez de réseau, j'ai le sentiment qu'il y a à l'intérieur la juxtaposition de deux niveaux. C'était un petit peu notre propos de hier après-midi. Il y a une couche d'infrastructure physique qui existe depuis 150 ans, 50 ans selon les réseaux dont on parle. Et cette couche d'infrastructure physique, j'ai l'impression que l'articulation avec les territoires, elle se régule bon, avec les réseaux d'eau et d'assainissement depuis 50 ans, ça continue toujours de la même façon, et que ce n'est pas tellement là qu'est l'enjeu. Moi, j'ai le sentiment que l'enjeu, il est plutôt sur la couche numérique des réseaux qui viennent perturber le jeu, parce que, je dirais, le service de base d'un réseau, je prends un réseau d'eau, le service public d'eau, il a peu ou prou pas changé depuis 150 ans. Ce qui change, c'est la couche numérique qui conduit à ce que, au-delà de ce service public, on va dire de base, il y a des tas de services marchands qui apparaissent, signalisation des fuites, etc. Puis on a tous nos réseaux avec nos GAFA qui amènent autre chose. Donc, est-ce que la clé n'est pas plutôt dans un découplage de la fonction physique du réseau et de la fonction usage-service qui est développée par le numérique et qui vient, elle, perturber le jeu politique parce que, notamment portée par des acteurs extrêmement puissants, on l'a rappelé hier, la capitalisation boursière des GAFA représente plus que le PIB de je ne sais plus combien de pays, et que c'est ça. Alors du coup, est-ce que la question, ce n'est pas plutôt la peur de l'inconnu parce qu'on a ces nouveaux acteurs qui arrivent et qu'on ne sait pas très bien les gérer? Ils sont arrivés à une vitesse fulgurante, il y a ça aussi. Parce que les réseaux d'eau, ça fait 150 ans, RTE, ça fait 70 ans. Bon. Et là, on a des acteurs qui, il y a 20 ans, n'existaient pas. Certains, il y a 5 ans, n'existaient pas. Et c'est ça, la peur, c'est cette accélération aussi.
Oui, bien sûr que du côté de... Alors, je ne sais pas si Michel accepterait que je parle de l'infrastructure à ce propos, mais je crois que c'est une notion plus intermédiaire, mais de l'infrastructure et du service... Moi, ce que j'appelle l'organisation dans le réseau, et non pas l'infra, il y a la montée en puissance de ceux que vous dites, qui sont X fois plus transgressifs que ne l'étaient les compagnies de chemin de fer du 19e, lorsqu'elles ont commencé à tirer des lignes et à inventer des destinations touristiques, par exemple, c'est-à-dire faire un aménagement que nous pensons être le produit de décisions publiques, alors que c'était des raisonnements de marché qui consistaient à essayer de faire en sorte que des gens montent dans les trains. Autrement dit, un certain nombre de compagnies ont inventé l'offre touristique française du Second Empire, non sans l'appui de la famille impériale qui labellisait par l'impératrice ou d'autres telle ou telle destination. Tout ça pour dire que c'est pas nouveau que des grandes puissances débordantes, c'est le terme du sujet, débordantes des territoires, créent de l'inconnu et réinterrogent les capacités de régulation, etc. etc. Donc on peut aller dans ce sens-là en disant, bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec Amazon, avec etc., etc., avec Airbnb. Par contre, là où je suis moins convaincu, je résume cette caricature, là, du côté de l'infra, la maison est en ordre. Parce que c'est du lourd, c'est du déjà là, on sait faire, et c'est tenu, et puis il y a tout notre système de syndicats ou d'autres formes de concessions, tout va bien. Non, moi je pense que, surtout pas, ne considérons pas que, en quelque sorte, cette couche-là est stable et qu'elle ne fait plus l'objet d'enjeux dont il faudrait reposer, auxquels il faudrait reposer des questions. Je prends deux exemples. J'ai découvert, moi, parce que je suis très évidemment mal informé, parce qu'on est tous dans l'existence des sociétés d'aménagement régional et les fonctions que certaines d'entre elles tiennent en matière de gestion à très long terme de la ressource en eau et en eau potable. Et donc, la société dont le nom m'échappe aujourd'hui, mais les gens de PACA vont me le rappeler, et qui gère la ressource en eau à partir du Verdon, et qui est constituée comme une toute sarre d'actionnaires publics, là, comment elle s'appelle, la société ? Non, pas celle-là, pas celle de Marseille, parce que justement elle est assez limitée. Celle du canal de Provence. Elle est constituée d'actionnaires publics. Hein. C'est la région, le département, enfin, etc. L'État est là, bien sûr, mais il est minoritaire maintenant. Bon, donc quelque part, on va dire tout va bien. L'infrastructure, c'est énorme ce truc-là. Hein. C'est ce qui alimente toute la côte en eau potable. Et en eau d'irrigation, avec tous les choix qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on met de quel côté, etc., comment on préserve la ressource à 40 ou à 50 ans, c'est des investissements extrêmement lourds. Donc on pourrait dire, tout est en place, tout va bien, sauf que ce débat-là, où est-ce qu'il est conduit, où est-ce qu'il est piloté, où est-ce qu'il fait partie de l'ensemble délibératif dont, par ailleurs, on va occuper beaucoup le temps et par lequel on va occuper beaucoup le temps et les esprits et des contemporains. Donc surtout, non, la couche d'infrastructure n'est pas déjà là, déjà arbitrée et bien tenue, elle doit ressortir. Mon deuxième exemple, c'est ce débat ferroviaire, enfin c'est pas un exemple, c'est un truc global. On est quand même dans un truc pas normal dans notre pays, entre des territoires qui exigent, comme s'ils se tournaient vers une espèce de superpuissance infrastructurelle qui en aurait la capacité, exigent des trains et des lignes nouvelles, ou des connexions, ou etc., etc., et en réalité ne font jamais la démonstration de la façon dont le système peut tenir. Je vis ça sur le SRADET de Bourgogne-Franche-Comté, parce que je vois ce que sont les investissements qui sont attendus pour achever le système en grande mobilité, sur le, grosso modo, le Y dijonnais. Mais on a l'impression que c'est un système qui ne sait plus du tout sur quel bouton il faut appuyer pour avoir une réponse. Et SNCF Réseau pourra toujours répondre, c'est pas lui qui finance. Donc, bien sûr, toutes les études que vous voulez, hein, quant à l'argent, sans même parler de l'exploitant, qui va ensuite faire vivre ce truc-là. Donc, l'infra, non, je pense que fait partie aujourd'hui des sujets qu'il faudrait redéterrer. Et je ne vois pas comment nous pouvons le faire si nous n'acceptons pas de prendre les fameuses parties prenantes, les stakeholders de ces grandes infras, non pas dans ce rapport de commandement que j'ai décrit tout à l'heure, mais en les mettant sur la scène de l'aménagement. Et donc, par exemple, dans un SRADET, il devrait y avoir du début à la fin un certain nombre de ces grands opérateurs, et donc SNCF Réseau, tout au long de la conception de ce schéma. Ça serait une façon de les mettre à égalité de pilotage avec le VP, etc., etc. Mais ceci dit, il y a ce monde de l'info ou du numérique qui est sans doute ce par quoi arrive l'alerte, parce que alors là, c'est encore évidemment beaucoup plus puissant. Transformer, je ne sais pas, Facebook en espace politique, vous allez me dire que c'est une évidence, puisque c'est déjà ce qui se passe, mais enfin bon, voilà. Je vous suis sur la partie. C'est pas un saut dans l'inconnu où tous le sont, tout à venir est dans l'inconnu, mais cette partie-là, oui, l'infra n'est pas si réglée comme de loin pas dans notre pays qui investit peu.
Juste une info, mais on le sait tous, je ne vais pas tomber dans un optimisme assez naïf, mais une partie des questions que Martin pose en matière de transport, en tout cas, pourrait peut-être trouver un début de réponse. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat en France depuis 2003 sur la question des transports, qui n'est quand même pas négligeable. Et pour préparer un chemin à Zut, pardon... Non. Un schéma d'infrastructure qui n'était d'ailleurs ni finançable ni hiérarchisé, c'était en 2003, je ne parle même pas du SNIT dont j'ai parlé hier. Mais bon, la semaine prochaine s'ouvre à Brognard des assises des mobilités. Il devrait y avoir une loi d'orientation qui va donner à nouveau au débat, et bien sûr au Sénat, et bien sûr au Parlement. Alors, il y aura des instances régionales de préparation de tout ça. Je n'ai aucune idée de la manière dont c'est organisé, mis en œuvre, mais enfin, il y aura un moment quand même de lumière et de poser les questions sur le fond. On verra bien ce que ça donne. Je ne voudrais pas être naïf ou trop optimiste, mais enfin, c'est beaucoup mieux que de ne rien dire et de rien organiser et de voter des budgets sans réflexion stratégique sur le long terme. Et cette décision politique, elle est le résultat des questions que l'association TDE dont je parlais hier avait mis sur la table et qui demandait de sortir aussi de l'annuité des budgets sur les infrastructures et les services. On est dans des réseaux à longue vie. Il faut une visibilité, il faut des options, il faut une hiérarchie, il faut le courage de trancher et d'écarter les mauvais projets. Bon, voilà, on va voir ce qui se passe.
Bonjour, Julia Jordan, CGET. Vous avez parlé de mandat. Et je voulais vous évoquer aussi les questions de contrats, parce que bon, CGET, on est une maison qui pilote un certain nombre de contrats, contrats de ville, contrats de plan État-région pour ceux que je connais le plus, et on était beaucoup dans les logiques État-collectivité. Effectivement, sur le renversement aussi, sur les évolutions du jeu entre les différents stakeholders, comme vous dites, ou partenaires qui font finalement la vie de tous les jours, et non les opérateurs de réseau par exemple. Dernièrement, on a eu les annonces par Nicolas Hulot lors du plan climat des contrats de transition écologique, dont on sent assez clairement qu'on n'est pas, en tout cas sur la volonté politique, après il y aura la mise en œuvre, enfin en tout cas la définition collective de ce que pourrait être le contrat, notamment dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, mais on sent bien qu'on est sur une volonté de travailler avec les partenaires, les grands opérateurs, certes, mais les partenaires privés aussi. Enfin, on est sur une gouvernance que moi je trouve plus grenellienne, mais qui pour le moment n'était pas du tout celle qu'on mettait en œuvre, je dirais, au niveau État central, ou en tout cas, les logiques qu'on proposait vraiment de contrat État-collectivité. Et voilà, je voulais voir un peu, savoir ce que vous en pensiez de ces évolutions, de ces appels assez réguliers à des contractualisations, des contrats. Voilà, est-ce qu'il y avait une clé, justement, pour envisager maintenant des choses différentes par rapport à ce qu'on a pu mettre en œuvre jusqu'à présent?
Il me semble que c'est en train de se faire. Autant la politique contractuelle, à cause de la décentralisation, s'est enfermée dans un rapport public-public, qui en plus était totalement malsain, parce qu'en fait, ce n'était pas une véritable contractualisation. C'était une fausse promesse entre un État un pécunieux à la fin du contrat et des collectivités, je vais être un peu carré, mais un peu irresponsables dans leur exigence que « I want my money back », quoi. Bon. Et ça s'appelle un contrat. Franchement, les gens du privé qui le regardent doivent se dire « Ouh là là, bah heureusement qu'on ne fait pas des contrats comme ça, parce que sinon, ça c'était tout sauf un système de confiance et d'engagement réciproque. » Maintenant, ça s'appelait un contrat, et c'était le bébé de la décentralisation. Je pense qu'on est allé au bout. Pendant ce temps-là, s'inventent les appels à initiatives, les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, les pôles de ceci et les partenariats de cela, qui sont autant de cadres dans lesquels, en réalité, se construisent des réponses avec ce que je préfère effectivement appeler des stakeholders, mais on va dire des parties prenantes, parce qu'on voit beaucoup mieux. Acteurs, c'est sympathique. Hein. Ben, c'est bon. Acteurs, comédiens aussi. Bien, enfin, on parle de scène. Donc, parties prenantes, voilà. Parce que si on veut travailler à un territoire à énergie positive et à la mise en circularité d'un certain nombre de ressources, vaut mieux qu'on ait avec nous quelques producteurs et quelques distributeurs. Donc, on va signer, mais pas sans. Hein. Et donc, il y a la collectivité, mais elle vient avec. Si on veut faire éco-cité, même chose, etc., etc. Alors ça hérisse le poil assez rapidement dans la gamme politique de plein de gens qui disent non, je ne ferai pas mon projet urbain, je ne signerai pas un contrat engageant des moyens publics avec un opérateur privé. Bah ok, mais en réalité c'est comme ça que ça va se passer. Et donc si vous voulez vraiment faire un objet d'engagement et en faire un sujet qui soit politiquement saisi, il faudra reconnaître que la scène, c'est exactement le titre, doit s'élargir. Et que donc la contractualisation, la vraie de demain, c'est celle qui fait dans les territoires des contrats publics-privés, de préférence avec l'État ou d'autres, ou l'Europe, etc., etc. Et là, du coup, on va changer les règles de la confiance et de l'engagement, parce que je ne pense pas qu'on pourra faire le même coup aux opérateurs privés que ce que l'État ose faire aux collectivités. Autrement dit, j'ai signé, mais je n'ai pas de sous. Ah oui, non, avec la relation deviendra forcément plus sincère.
J'aimerais rebondir sur cette question et votre réponse en pensant en particulier à des dispositifs comme Réinventer Paris et puis plus précisément Inventons la métropole du Grand Paris, sur lequel effectivement les acteurs publics reprennent leur destin en main d'une certaine façon en redevenant décideurs et stratèges, mais ce faisant peuvent donner le sentiment d'exfiltrer vers le privé toute une partie de l'ingénierie d'aménagement qui était avant prise en charge par exemple par des SEM. Et la question que je me pose, c'est celle effectivement du volet financier, parce que sur une première édition, les acteurs, les parties prenantes de la place, effectivement ont assumé leurs risques et peut-être commencé à rogner un petit peu de la marge, mais comme tout corps apprenant, j'imagine que si on institutionnalise ce genre de phénomène, finalement, les marges vont se reconstituer avec des parties prenantes qui, elles, ne seront absolument pas décidées à sacrifier leurs marges, petit 1, et petit 2, avec des acteurs publics
qui pourront avoir des niveaux d'exigence en matière de rendu fidèle à ce qui a été promis initialement, forte, mais avec des parties prenantes privées qui, elles, peuvent très bien céder. Un promoteur vend une fois qu'il a construit. Même un investisseur peut céder ses parts. Et la question aujourd'hui qui, à mes yeux, n'est pas encore résolue, c'est celle des garanties de chaque côté. Garantie de marge, garantie de bonne fin et de bonne conduite à terme des engagements qui auront été pris au moment des appels. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce dispositif et, à votre sens, quelles sont les pistes de sécurisation de part et d'autre, de manière à ce que la confiance reste là ?
Personne qui vous répond, qui a la réponse à cette question, embauchez-la tout de suite, que vous soyez. Enfin, je veux dire, c'est pas des questions qu'il faut poser, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose collectivement, à condition de bien les poser. Parce que ici, où on est plutôt un monde public, même s'il y a pas mal de collègues d'entreprises privées, Colas, etc., on peut avoir tendance à dire, on s'embarque dans un système, c'est réinventons Paris, inventons la métropole, etc., etc., dans lequel on risque de perdre notre capacité de garantie à long terme de la finalité d'une opération, etc., etc., parce qu'ils peuvent vendre, etc. Et quand on va écouter les acteurs privés, lorsqu'ils sont majoritaires, parce que par exemple, moi j'interviens aussi dans l'Institut Palladio, qui est votre petit cousin, il y a un autre panel, eux ils disent, notre problème, c'est qu'on n'a pas de garantie du public, parce qu'ils changent, et ils changent en permanence, et ils recommencent, et ils se battent. Et évidemment, le job de celui qui a battu l'autre, c'est de faire le contraire, a priori. Et donc, comment voulez-vous qu'à long terme, et c'est du coup, alors c'est le renversement, c'est eux les dépositaires du long terme, on puisse travailler à une opération complexe d'aménagement urbain, d'investissement, etc., d'intérêt public, disent-ils, en tant qu'opérateur privé, quand on a en face de nous des collectivités qui n'arrêtent pas de donner des coups à gauche, des coups à droite, c'est le cas de le dire, et de renoncer aux engagements stratégiques qui étaient les leurs. Bon. Alors, déjà, si on pouvait avoir des endroits où nous poserions cette espèce de reproche réciproque et sur lesquels nous pourrions poser la question de la garantie et des systèmes de confiance, c'est-à-dire de ce qui pourrait être l'outil par lequel nous reconnaissons une défaillance et nous nous engageons à des conséquences, après tout. Effectivement, hein, le maire a changé et il n'est pas d'accord. Et il y a des raisons politiques et démocratiques à ce qu'il remette en cause l'opération qui avait été engagée avec un opérateur privé qui dirait Oh, c'était signé. Hein. Alors la démocratie, ça ne peut pas être ça non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a besoin d'une forme d'innovation de ce qui était antérieurement la maîtrise d'ouvrage et qui était très confortable. Je décide, je paye, tu exécutes. On se rend compte qu'en réalité, la maîtrise d'ouvrage dans réinventer Paris ou inventer la métropole, on est en train de la partager, on pourrait presque dire la concéder. En tout cas, il y a une forme de partage. Donc du coup, les fonctions de la maîtrise d'ouvrage, c'est plus les mêmes. Je n'ai pas la réponse. Je confirme que ça est un endroit, un laboratoire d'innovation sur la conduite des opérations qui est majeur. J'espère qu'ils vont le prendre vraiment d'une façon très responsable et non pas comme une concession. Hein, puisque vous avez constitué le consortium des investisseurs et le programme, on vous laisse avancer sur ce morceau de foncier, allez-y. On renonce en quelque sorte à peser sur les orientations. J'espère qu'on va réinventer les fonctions de la maîtrise d'ouvrage quand même, mais je constate que c'est un endroit où effectivement sont reposées les questions du long terme partagé entre le marché et la politique publique, du système de garantie réciproque et de la façon dont on construit la confiance, ce qui ne veut pas dire qu'on s'aime, qu'on s'adore et qu'on n'a jamais de problème ensemble, mais ça veut dire qu'on trouve les systèmes d'arbitrage et de recours. Quand il y a conflit et quand il y a défaillance, non-respect, insincérité, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'aspects là qui amènent vers le juridique et la sanction. Toutes choses qui existent quand même dans le monde commercial. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe quand dans un contrat international, et pourtant adossé à deux systèmes nationaux très éloignés, une des deux parties joue pas le job, il y a des tribunaux, enfin, bref, il y a des siècles de régulations qui se sont mis en place pour garantir des relations entre des gens qui sont très étrangers les uns aux autres. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivera pas à le faire entre le public et le privé chez nous?
Juste, Merci.
Oui, bonjour, Marion Alfaro, je travaille au Port de Paris et je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que c'est des choses qu'on fait dans notre établissement public. On est un établissement public sous tutelle du ministère des Transports et on est propriétaire du domaine public fluvial, des berges, et on le met à disposition d'acteurs économiques, privés, qui viennent faire des projets, qui viennent construire chez nous et qui ont des contrats d'occupation pendant 20 ans pour construire une centrale à béton en limitant 2 millions d'euros. Bon, alors, on n'est pas dans des zones d'aménagement, ils ne portent pas des projets d'aménagement, mais ils portent des projets d'exploitation et ils construisent leur outil industriel ou quoi que ce soit. Mais donc on fait des appels à projets, donc on a participé à Réinventer la Seine, mais qui est en fait juste la reproduction d'appels à projets qu'on fait depuis de nombreuses années. Et je suis d'accord que la question, c'est comment on construit la relation sur le long terme. On essaye d'y répondre par le contrat, en fait, par la convention qu'on signe de part et d'autre et qui a une certaine, enfin, qui a une durée, et où chacun s'engage mutuellement. Effectivement, alors, il y a plein de frictions, ça se passe pas toujours bien, mais ça se passe. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on fait à notre niveau. Alors, c'est pas à une échelle d'un projet d'aménagement. C'est des zones beaucoup plus petites et c'est à l'échelle d'une exploitation, on va dire, économique. Mais c'est ce partenariat-là entre le public et le privé qu'on constate, en fait, dans ce qu'on fait quotidiennement. Et on a l'habitude de dire que quand nous, on met un euro pour faire un port, en face, le privé met un euro pour faire son activité. Donc on double, en fait, l'investissement qu'on est capable de faire sur nos espaces. Bon, alors c'est un petit niveau, encore une fois, etc., mais c'est quand même un exemple, je trouve, d'une puissance publique. On est un établissement public, hein, 100%, qui remet ses espaces au privé pour qu'il y fasse son activité. Bon, on s'éloigne peut-être un peu du sujet réseau, mais...
Ouais, félicitations, mais en même temps, on pourrait vous dire en passant, c'est super parce que, à travers votre stratégie entre les intérêts publics dont vous êtes dépositaire et les opérateurs privés, ils se fabriquent quelque chose d'intelligent depuis des années, etc., etc. Mais vous entendez aussi la voix des collectivités de votre territoire qui disent « le PA, le port autonome, pas le vôtre bien sûr, hein, mais le concept de port autonome, l'opération d'intérêt national, Euromed ou NEDRA, hein, c'est de l'extraterritorialité, c'est un peu beau, c'est pas beau. »
Aussi.
Voilà. Et donc, bon, voilà, c'est eux les rois, ils ont checké, ils avancent, mais en fait, ma stratégie n'est pas entendue. Enfin bref, on a quand même un petit problème de réembarquement de cet objet dont vous parlez, qui fonctionne bien, dans son contexte territorial.
La Sûre a beaucoup évolué ces dernières années. Notre vrai nom, c'est Port Autonome de Paris, mais on ne le prononce plus. On dit qu'on s'appelle Port de Paris tout court, pour essayer de gommer effectivement cet aspect-là. Mais je suis d'accord que c'est un des axes sur lesquels on travaille depuis de nombreuses années pour essayer d'embarquer ça. Parce que, effectivement, quand on a des collectivités aussi puissantes que la ville de Paris, la ville de Boulogne en face, qui ont envie d'avoir leur propre politique sur les quais, ça peut aussi.
De mon point de vue, vous êtes un opérateur de réseau. Parce qu'un port, c'est un lieu dans un système de flux. Et donc, vous êtes une infrastructure qui a l'air très fixe et dans laquelle, matériellement, sur le site même, mais vous êtes un opérateur de réseau et c'est plus exactement l'ensemble des ports dans lesquels vous êtes, et vous, c'est un repas qui constitue ce réseau et qui repose exactement les questions que j'ai énoncées. Au-delà de la question de la trop longue autonomie, je pense au port du Havre, surtout en parlant de ça. Hein, c'est le choc, quoi. Hein, chronique d'une lutte séculaire entre le port et la ville. Bon, à un moment donné, c'est pas ça, aménager l'espace, pour pas dire le territoire, parce que là, c'est du territoire plus de réseau. Mais oui, on progresse quand même. Oui.
C'est une observation, mais je n'avais pas fait le lien. Et la privatisation de l'aéroport de Paris, qui est annoncée, va ouvrir un drôle de chantier. C'est pas assez fort.
Non.
Mais c'est mieux.
C'est mieux. Oui, non, la privatisation d'aéroport de Paris va ouvrir un sacré chantier, puisque pour le coup, aéroport de Paris, c'est un capital public qu'il exerce. Le rapport au territoire, étant sur l'atelier d'Orly, on voit bien à quel point ça ouvre toute une série de questions, et sur un équipement extraterritorial avec ses enjeux locaux et avec ses enjeux métropolitains, régionaux et nationaux, internationaux. Et j'ai pas de questions derrière. C'est plus une observation qui me vient. C'est on va avoir par rapport à ce que vous dites, un laboratoire assez intéressant avec ce que va devenir un opérateur privé qui assure la gestion d'infrastructures d'intérêt national et la place des collectivités et des différents niveaux de territoire sur la manière dont ils vont se conjuguer avec un opérateur qui ne sera plus l'État.
Vous devez partir à quelle heure ? C'est pas que je m'ennuie, hein, mais j'ai à 10.
Bonjour, Mathias Cadeau, je dirige un réseau qui s'appelle Réseau Ville, voilà, qui réunit 23 collectivités en Bretagne, en Pays de la Loire. Le Pays de la Loire, vous connaissez bien parce que vous avez travaillé à l'époque sur des prospectives à 2040. Je voulais réagir parce que, sur votre premier exemple, la question de Dijon et effectivement de ce gros projet, mais je ne crois pas, moi, à la naïveté, je ne crois pas du tout à la naïveté de M. Rebsamen sur le fait qu'il ait bien voulu croire qu'il était le premier. Et je dis ça parce que je pense que peut-être que les collectivités territoriales, c'est aussi des lieux d'équilibre de ces réseaux-là. Parce que des villes, elles ont toujours été sous influence de plein de réseaux. Que ce soit des réseaux privés, mais des réseaux publics également. Enfin, on parlait, je parle, Bretagne, Pays de la Loire, par exemple, on a un gros réseau qui est les écoles privées, qui réunit 50% des enfants en scolarisation. C'est un réseau important d'influence et on est toujours sous cette influence. Et je pense sans doute que la question territoriale et le rôle peut-être des élus, c'est pouvoir justement d'essayer d'équilibrer parce que, mine de rien, malgré tout, ceux qui ont une vision globale de l'ensemble, du besoin des populations, c'est pas forcément ces différents réseaux qui ont à un moment donné un seul intérêt. Et je trouve que dans votre propos, vous avez tendance à avoir cette volonté de dire, bah tiens, dans le privé, il y aurait une volonté d'une vision plus long terme. Alors je vais vous donner d'autres exemples. Moi, j'habite dans une ville à Angers, que connaît bien Philippe là-haut. Qui a travaillé sur un projet d'aménagement avec un urbanisme, premier prix d'urbanisme, monsieur le directeur, etc., qui, au lendemain des municipales, a changé complètement son projet en reprenant pour compte les propos inverses de l'ancienne municipalité et qui, pour autant, continue à travailler. Donc il n'y a pas pour autant quelque chose qui irait au-delà du temps politique, un temps privé. On a vu aussi d'autres opérateurs qui peuvent changer aussi leur vision. Donc je ne sais pas où sont les influences et les équilibres, mais j'ai tendance à croire quand même que ces collectivités, ces pouvoirs publics, surtout quand ils sont un peu de force, ils peuvent avoir cette logique d'essayer de respecter un champ un peu générique. Là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est la question, cette relation entre les territoires. C'est comment elles-mêmes se mettre en réseau. Je vais reprendre mon exemple. Si Nantes, Rennes travaillent davantage ensemble demain, il y a sans doute un pôle de coopération très important qui peut se développer, à condition qu'ils n'oublient pas les petites métropoles intermédiaires. Et ça, je pense qu'on a encore aussi sur ces réseaux-là des réflexions à conclure.
Que le politique soit l'ensemblier, qu'il soit dépositaire de la vision commune, qu'il ait une fonction sur le long terme, il n'y a aucun doute qu'une fois qu'on a dit ça, on se tourne vers les collectivités pour qu'elles assument ce job, c'est là que je dis « Ah, il va vous manquer quelqu'un ». Il va vous manquer quelqu'un qui en sait aussi long que vous sur ce que c'est que le long terme, qu'il a autant que vous dans son logiciel et dans ses impératifs de gestion. Il va vous manquer quelqu'un qui, autant que vous, construit des intérêts collectifs et les anime. Et il va vous manquer quelqu'un qui, plus que vous, fait de l'interterritorialité, de l'ajustement, etc., etc. Et donc, c'est pas pour vous demander de sortir, monsieur Rebsamen ou XY, mais c'est pour vous demander d'élargir. Et en plus exactement, c'est pour nous interpeller, nous citoyens, sur la façon dont on trouvera intelligemment les rôles politiques de chacun. Parce qu'il ne s'agit pas de voter pour la désignation du directoire de je ne sais pas quelle société, enfin entreprise privée, enfin c'est pas ça que je suis en train d'explorer, bien sûr. Donc il y a du politique public, et puis à côté il y a d'autres choses. Comment est-ce qu'on arrive à hybrider ? C'est ça qui m'intéresse, et qui n'est pas facile, hein. C'est pour ça que je lance des mots qui permettent de faire des ponts sur le délibératif, sur le principe de mandat, etc., ou sur la réinvention de la contractualisation. Et pour commencer, atténuer un peu le côté satisfait que trop de collectivités continuent à trimballer sur le mode « c'est nous, l'espace politique, et c'est que nous ». Et donc les décisions à long terme engageant la région, la ville, etc., etc., c'est quand même notre job. Ben ouais, en fait, ni plus ni moins que celui de tel ou tel responsable, de telle ou telle organisation, infrastructure, enfin pas l'individu, mais la société en question. Sinon, enfin, on ne fait pas tout, mais si on les considère comme des subséquents, on se trompe.
Merci. Je vais Oui, moi, Magali Castex, Grand Paris Aménagement. Moi, j'aurais souhaité vous voir réagir sur la question de la vente des aéroports à des investisseurs privés, étrangers. Donc, par exemple, à Toulouse, alors franchement, j'y connais rien, mais je sais pas si c'était à la ville ou à la région.
Ils sont tous en train d'être achetés.
C'était à la chambre de commerce.
Tous les aéroports régionaux, sont plus infos que moi, sont en passe d'être rachetés les uns après les autres, et un grand nombre d'entre eux par des consortiums internationaux.
Et donc, est-ce que c'est un pas de plus dans la perte, justement, de cette discussion politique sur la gestion des réseaux, enfin, le fait que ce soit des...
Manifestement, on est au cœur du sujet. Mon opinion compte assez peu, c'est une opinion politique, personnelle, mais manifestement, il se passe quelque chose. Donc on voit bien que un des outils de développement qui est un aéroport dans une collectivité, il rentre dans le marché, et en plus, ce n'est pas un marché national avec un consortium d'intérêts et de gestion. Non, c'est les Chinois, etc. Ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On constate juste que c'est pas grave. Donc, Toulouse Métropole aura sans doute des relations contractuelles avec le groupe machin qui gère l'aéroport, ou on pose la question autrement? C'est exactement ça. Moi, je ne prononce pas sur l'effectivité de la chose, mais je trouve que ça exprime bien le débat. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, ça y est, pardon. Alors, c'est comme à Saint-Lazare. Oui? Oui? Mais alors, dépêche-toi, parce que t'as vu, tout le monde s'en va. Hein. Ou alors, viens, on va.
Dans le temps que Victor arrive,
tu t'es fait piquer le...
Oui, non, mais il vient venir. vous avez un propos qui semble dire qu'il faut intégrer le privé dans les réseaux et établir cette collaboration public-privé, et notamment en matière d'aménagement du territoire. Cependant, il y a eu un phénomène complètement inverse, avec une démission complète du pouvoir politique et des collectivités locales sur un certain nombre de
questions. C'est comme ça, je peux faire partie.
De réseaux d'électricité, de communication, d'eau, de chauffage urbain, etc., qui sont aujourd'hui totalement délégués au privé, sans aucun contrôle, avec des mandats parfois mais peu tenus. Et donc, est-ce que le risque de confier ou tenter un partenariat avec le privé aujourd'hui sur d'autres réseaux, d'autres structures, ne risque pas de conduire à terme à un abandon complet du contrôle public sur la chose?
Mais non, c'est justement, c'est au réinvestissement que j'appelle. C'est constatant comme toi que 30 ans de décentralisation ont formidablement fait monter le principe de délégation au service public dans des systèmes en cascade qui sait qu'au bout du compte, les décisions industrielles et organisationnelles sont prises par des gens qui sont plus sous contrôle, parce qu'en fait la ville délègue à la SEM, qui délègue à l'établissement, etc. Puis après, derrière, t'as ta Veolia. Mais pour retrouver le système de commandement, tu peux te lever tôt, hein, pour savoir exactement qui prend les décisions techniques, commerciales et d'investissement à long terme sur tel ou tel réseau, qu'il s'agisse de l'eau ou des transports. Bonjour. Ça, c'est la décentralisation, quand même extraordinaire. Hein. De plus en plus de pouvoir aux collectivités locales, qu'est-ce qu'ils en ont fait en termes de réseau? Ils ont fabriqué effectivement ce système de délestage. Et on peut comprendre pour un certain nombre d'élus qui n'ont pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit, parce qu'ils sont bien présents dans les consortiums en question. Mais n'empêche que d'un point de vue citoyen, ça explose, ça pète au nez, ça fait l'affaire Carignan, ça en fait pas mal d'autres. Donc moi je dis pas du tout, vous voyez bien, il faut vraiment leur donner les clés du camion. J'ai dit au contraire, vous voyez bien, c'est un espace technique et économique, avec des réponses sur les usages et les biens que nous devons réinvestir d'une façon ou d'une autre. Hein. Et donc c'est pas du tout un appel à la republicisation, à la nationalisation locale ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui est très passionnant de mon point de vue, c'est l'hybridation. Oui, bien sûr, ces grands groupes font la ville intelligente. Celle que mon collègue a dit tout à l'heure, qu'il a montré l'image, il dit « je ne vois pas très bien comment ça fonctionne ». Il la fabrique quand même. Alors, quand est-ce qu'on peut en faire l'objet d'une politique publique d'une façon plus explicite avec eux que ça n'est actuellement le cas? Parce que pour l'instant, la chose est vendue comme une formidable promesse technologique et donc simplement comme une sorte de virtuosité de la part de l'édile locale à avoir intéressé un consortium privé qui va nous équiper la bonne ville. Remarquez, ça fait penser à Haussmann, c'est un peu la même histoire. Non, c'est la question de réinvestissement politique de cet endroit qui, je confirme cette analyse, a été quand même globalement abandonné par la pensée publique. Ça rejoint la faiblesse des débats sur les infrastructures à long terme, leur maintenance, les nécessités d'investissement, qui fait qu'aujourd'hui, on peut exiger Paris-Limoges, ou Paris n'importe quoi, de toute façon, on ferait mieux de trouver qui va le payer.
Bonjour. Donc, Victor Agopon, consultant d'une boîte pour mes conseils que j'ai créée il y a quelques années. J'ai pas vraiment de questions, mais je voulais aller dans le sens de ce que vous disiez. Tout simplement parce qu'effectivement, je viens d'un monde qui est un peu différent de celui de mes camarades et que je crois réellement que pour la France, et c'est vraiment la question de fond, en fait, le sujet de fond que vous avez soulevé, avec lequel je suis d'accord, c'est qu'aujourd'hui, il manque une culture commune entre le public et le privé. Il y a des intérêts qui sont partagés pour tout le monde, pour la nation. Le problème, c'est qu'on est souvent, on ressent, en tout cas quand on vient du privé, une opposition entre le public et le privé, parce que le public pense, je vais le dire peut-être de manière un peu brutale, mais pense un peu détenir la vérité, et le privé doit se plier à cette vérité et mettre en œuvre ce qu'imagine le public. Et c'est ce qui fait que malheureusement, on est aujourd'hui face à pas mal de blocages. Il faudra réussir à créer des nouvelles instances où les politiques seraient imaginer ensemble et pour imaginer des plans d'action ensemble et qu'il y ait une vraie stratégie qui soit imaginée mais sur du long terme et tous ensemble. Parce qu'effectivement quand vous avez un gouvernement par exemple qui met en place des initiatives et que le suivant arrive 50 ans plus tard et fait exactement l'inverse, que ça se passe de la même manière à l'échelle locale avec la municipalité, des changements quand on prend l'Île-de-France. Moi, je travaille pour des collectivités. J'ai eu un marché en 2010, un marché d'accompagnement d'entrepreneurs. En 2012, il a été transféré à la communauté d'agglomération. En 2014, il a été transféré à l'EPT. Avec des changements de décisions politiques dans tout ça, enfin, ça crée de la cacophonie. Au final, l'objectif qui était... l'objectif est perdu au final. Donc voilà, moi je voulais aller dans le sens de ce que vous disiez. Et donc c'est plus cette question de fond là qui en réalité, enfin moi me semble intéressante, qu'après les questions de réseau, tout ça. C'est la question aujourd'hui vraiment de savoir comment on peut ensemble créer une culture commune au public, au privé, avec une stratégie à long terme.
Je suis d'accord, c'est pour ça que j'appelle ça moi la nouvelle économie politique. C'est une question d'économie politique pour moi. Cet ajustement des deux sphères. C'est une question d'économie, il faut en réinventer les termes. J'ajouterais avant de passer la parole que dans le privé, tu as les mêmes comportements de la part de très grandes entreprises qui sont totalement autonomes dans leur système de pensée, et qui, je ne veux pas trop les dénoncer parce qu'on est chez eux, mais c'est pas que le privé, quoi, je veux dire. C'est pour ça que moi j'ai appelé ça dans mon bouquin « Le capitalisme réticulaire » et que j'y ai mis aussi bien les anciens grands monopoles publics qui ont une capacité extraordinaire à se comporter en organisme autonome, avec des rationalités qui leur sont propres et qu'on peut comprendre. Mais la question, c'est comment on réintègre tout ça. Ça serait dommage qu'on... L'idée, c'est pas que tout le monde sait, mais qu'on ait des endroits pour s'embrasser sur la bouche et que ça marchera beaucoup plus. Non, c'est pas ça la question. C'est vraiment les règles d'une économie politique qui font fonctionner. J'ai lu dans le journal qu'un prix Nobel américain renversait les termes de cette dénonciation qui est montée par la mondialisation, selon laquelle l'économique primait sur le politique et que finalement la mondialisation était le récit de la perte des capacités politiques à gouverner le monde qui en fait serait aux mains de etc. etc. Et lui, ce prix Nobel dont j'ai oublié le nom, dit non, mais pas du tout. En réalité, l'essentiel des grandes décisions sont orientées par des fonctions politiques et économiques, et c'est un marché qui s'ajuste, etc. etc. Bon, ça prouve qu'on n'est pas au clair sur la façon dont il faut réénoncer les termes de l'économie politique, et effectivement, sphère publique, sphère privée, est une des grandes dimensions de cet ajustement.
Xavier Auclair, EDF.
Et après Xavier Auclair, EDF,
EDF aura donc le dernier mot.
Il va vous laisser et il va vous poser la question pour ce faire.
Je voulais d'abord relativiser votre propos sur le fait que les entreprises de réseau ne prennent pas en compte les parties prenantes, les territoires. J'ai un exemple vécu par cette maison dans la volonté de créer un poste électrique dans l'ouest parisien, où après 20 ans, ils ont finalement compris qu'il fallait entendre les territoires, les parties prenantes, les associations, les habitants. Le projet a été complètement changé, a été relocalisé. La façon d'élaborer le poste, son insertion dans le paysage a été revue. Le jour de l'inauguration, le 6 mars 2009, la présidente de l'association Yvelines Environnement, qui était la plus farouche opposante du projet, a dit au président de l'entreprise « Il est quand même beau notre poste ». Je trouve que c'est la traduction, contrairement à ce que vous avez dit, de la capacité de ces entreprises de réseau à conduire des dialogues, à intégrer la concertation, à innover en la matière en créant des applications qui permettent de visualiser ce que sera l'insertion d'un nouveau réseau dans l'environnement de chacun à l'occasion des différentes étapes de débat public et de concertation. Donc je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte dans les entreprises de réseau. Et puis, une petite question provocatrice. Dans ces murs où le nouveau président est François Brotte, qui vient du monde politique, est-ce qu'il ne constitue pas la plus belle image d'hybridation d'une entreprise de réseau par le politique?
Ah oui, ça c'est comme le cumul des mandats qui permet l'interterritorialité, ça c'est... Ah mais d'accord, François, je connais bien François Brotte, parce qu'on s'est côtoyé dans des vies politiques... Non mais, de toute façon, oui. C'est une réponse un peu à la française, ça. Les articulations se passent bien, regardez, c'est le même bonhomme. Bon. Posons les termes dans des exigences plus... Alors pour le coup, institutionnelles, plus organisationnelles. Bon, c'est un signe. Ça prouve que ça peut circuler entre les élites. C'est peut-être par ça, par là que les ajustements se font, hein. Notamment le fait qu'entre grands corps de l'État, dans les grands corps de l'État, s'ajustent depuis très longtemps, c'est pour ça qu'ils ont été inventés en question, les sphères publiques et la sphère privée, ça c'est sûr. Moyennant quoi, effectivement, il n'y a pas d'espace politique dans ces conditions, parce que on n'a pas besoin, les élites n'ont pas besoin d'un espace politique, elles sont leur propre espace, quoi. Bon, François n'en fait pas partie, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas sorti du Sérail, mais... Bon, alors, retour à la... écoutez, il ne faut pas noircir le tableau, moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous avez renversé le terme de ce que je dénonçais, c'est-à-dire, les entreprises sont capables d'aller chercher les parties prenantes dans le territoire. Moi, je disais, les territoires ne sont pas capables d'aller chercher les parties prenantes dans les entreprises. Ils ne savent pas le faire. Mais je conçois que des entreprises comme la vôtre et plein d'autres, il y a 2 ans ou 3 ans, l'équipe, on était allé voir Enedis, et c'était très intéressant la façon dont les gens d'Enedis m'ont raconté comment, à travers l'opération du compteur Linky, ils rentraient dans des choses qui étaient vraiment des débats sociétaux, et ils essayaient de les porter. Moi, je suis admiratif, j'aide les gens de SNCF Réseau à faire un métier dont, visiblement, ils n'ont pas les compétences, je dis clairement, parce que c'est un métier politique qui consiste à organiser du débat dans la durée tout au long d'un projet. Et en face de moi, il y a des ingénieurs qui savent faire des modèles. Et ben, tire mon chapeau, parce que c'est pas du tout les mêmes rationalités, quoi. Donc oui, cet effort-là a lieu dans un sens. Dans l'autre, je trouve qu'il n'est pas beaucoup fait. Vous avez vu le schéma, le S3R ENR, le schéma régional des réseaux...
De raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Merci beaucoup. On a tellement peu entendu parler que la moitié d'entre nous ne savons pas vraiment prononcer. Je veux dire par là, il a été adopté par le préfet. Certes, c'est pas un schéma anodin. Il nous a expliqué que c'était de l'investissement et de la tarification derrière. Le truc s'embarque dans le SRCE, je vais te laisser la parole. Je trouve que c'est quelque chose de majeur qui fait un objet fort et qui n'est pas en réalité bien identifié au moment où, par ailleurs, on est tous en train de faire des sradettes avec des grands mots. Et puis là, il y a un truc qui s'est fait signer et qui embarque. Qui peut-être intéresserait beaucoup plus les citoyens qui n'en ont rien à fiche du SRADET, mais ce schéma-là, je pense qu'ils intéresseraient beaucoup.
Sauf que le SRCAE, ça a été une illustration majeure d'un moment politique où toutes les parties prenantes étaient associées pour son élaboration, pour les contributions, au vu des multiples réunions qui ont été conduites. Je prendrai l'Île-de-France, hein. Moi j'ai participé à l'élaboration de celui d'Île-de-France pour le compte de RTE à l'époque. tout le monde était présent, tout le monde apportait au conseil régional et au service de la DRIE qui travaillait pour le préfet les éléments, les discussions, les échanges. Après, le S3RENR, c'est juste l'analyse technique des choix politiques faits, mais une analyse technique. Les lieux favorables à l'implantation des ENR avaient été mis dans le SRCAE. Ils n'ont rien choisi, ils ont juste fait des... Enfin, en plus, je sais comment il a été élaboré. Ils ont juste regardé les distances de ligne, les postes de raccordement en fonction des lieux d'implantation des ENR, et ils ont dit, voilà ce que ça coûte, est-ce que ça coûte. Il se trouve qu'en Ile-de-France, ça coûte zéro, et que donc, ils pouvaient se mettre dans toutes les zones favorables aux ENR sans qu'il y ait un coût majeur à supporter.